Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prière, à partir de la parabole du juge qui se fit prier longtemps. Nous trouvons cette parabole dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, les versets 1 à 8. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit « Il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu ni respect des hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu ni ne respecte les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Et il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
La deuxième lecture du jour est dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 9 à 17. Or vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritier de Dieu, co-héritier de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Il y a la prière silencieuse, muette, toute intérieure. La prière solitaire ou la prière collective. Chaque fois que vous serez réunis en mon nom, dit Jésus, je serai parmi vous. La prière annonée, la prière marmonnée, la prière psalmodiée, la prière chantée, la prière automatique comme d'un robot, vous me direz 5 pater et 4 ave, et à l'opposé, la prière pensée, réfléchie.
La prière peut être demande, supplication, comme celle de la femme de la parabole, qui demande sans cesse la même chose au juge, à la manière des petits-enfants, sans se lasser, pour obtenir ce qu'elle souhaite ardemment. La prière peut être remerciement, action de grâce. Parfois, la prière n'est qu'un cri. Un cri de joie, cri d'allégresse, ou cri de douleur, de désespoir. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur, écoute ma prière, écoute mon appel, implore le peuple de Dieu.
La prière. Prière vient du latin precari. C'est un acte de religion, nous dit le dictionnaire, par lequel on s'adresse à Dieu pour exprimer l'adoration ou la vénération, une demande ou une action de grâce. Dans notre langage courant, prier, c'est demander avec instance et humilité. Je vous prie de me rendre ce service, par exemple.
Dans son sermon sur la montagne, Jésus disait à ses disciples « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. » Et il nous donnait comme exemple de prière le Notre Père. Dans cette parabole de juge inique, du juge d'injustice, qui ne cède à la requête que pour s'assurer sa tranquillité face à l'insistance de la veuve, Jésus, qui aime manier les paradoxes, nous dit au contraire « Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ». Alors, on peut se demander s'il faut prier ou s'il ne faut pas prier, s'il faut toujours prier et ne point se relâcher, comme dit Luc, ou s'il faut plutôt rester sobre dans la prière et se limiter à dire de temps en temps le Notre Père.
Dieu a choisi Jésus comme médiateur entre lui et les hommes. Or, Jésus se présente comme un homme ordinaire, vivant et souffrant comme un homme. Jésus n'a-t-il pas démitisé Dieu puisqu'il a détrôné de son ciel pour le faire devenir en sa personne et descendre en sa personne sur la terre parmi nous? Jésus n'a-t-il pas fait de Dieu le compagnon des hommes? Et voilà que nous nous demandons depuis bientôt 2000 ans s'il faut chercher Dieu dans sa transcendance comme étant le tout autre, le tout puissant, ou au contraire s'il faut le trouver parmi les pauvres, les misérables, comme étant l'agressé, le crucifié, l'affamé du Rwanda ou le bombardé de Syrie.
La prière est-elle dialogue avec Dieu ou combat terre à terre sur notre terre? Vous savez que ce débat a été au cœur des recherches de la nouvelle théologie. La foi est-elle menacée? Est-ce là ce que Jésus voulait dire dans la parabole du juge d'injustice en demandant en conclusion « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
Radio Grand Ciel, émission de l'Église protestante unie de Chartres. Nous vous parlons aujourd'hui de la prière. Les extraits musicaux sont des motets de Marc-Antoine Charpentier, motet pour l'offertoire de la Messe Rouge. La prière. Comment et pourquoi faut-il prier ? Dieu est-il le Dieu qu'on invoque quand on est malade pour obtenir une guérison pratique, commode et gratuite ? « Je ne crois plus », me disait un malade, « j'ai prié et encore prié, il ne m'a pas guéri. » Dieu est-il le Dieu qu'on invoque afin de consoler, de rassurer les hommes devant la mort ? Dieu est-il le Dieu qu'on invoque afin de rejeter sur ses épaules divines le souci de la justice parmi les hommes, de la cessation de la guerre, de la nutrition de milliards d'hommes affamés, oubliant un peu vite que le Maître nous a laissé son domaine à gérer nous-mêmes, en homme responsable, dans l'attente de son retour ? Dieu est-il le Dieu de tous ceux qui manquent de courage devant la vie, devant l'engagement risqué de l'aventure humaine ? Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, mort à 39 ans, pendu par les nazis, écrivait « J'aimerais parler de Dieu, non aux limites, mais au centre, non dans la faiblesse, mais dans la force. » Non à propos de la mort et de la faute, mais dans la vie et dans la bonté de l'homme.
Nous nous sommes habitués à prier Dieu pieusement, machinalement, verbeusement. Nous avons considéré que Dieu était la solution commode pour toutes nos petites misères. Et c'est pourquoi nos prières sont devenues parfois superstitieuses, mendiantes, étriquées. Nous n'avons pas mis Dieu au centre de nos vies, mais à la périphérie. Ce n'est pas notre joie de vivre que nous avons voulu partager avec Dieu, mais nos petits tracas, nos petites misères. Comme ces gens qui ne savent parler que de leur malheur, jamais de leur joie, et que tout le monde fuit. Or, Dieu n'a pas agi ainsi avec nous. Jésus-Christ n'est pas resté distant et lointain avec nous. Il est venu parmi nous, il est devenu des nôtres, il a aimé notre vie, il a donné de la valeur au combat pour vivre, à la joie humaine de vivre.
Comment nous faut-il donc prier ? Vous savez que les disciples ont posé un jour cette question à Jésus, et vous connaissez la réponse. Jésus leur a donné le Notre Père. Or, le Notre Père n'est pas une prière pieuse, verbeuse, étriquée et mendiante. Notre Père est cette prière par laquelle l'homme partage avec Dieu, dans une réponse d'amour à l'amour reçu, comme le rappelle le pasteur Samuel Sahagian, ce qui fait la préoccupation de Dieu pour les hommes, c'est-à-dire le développement du royaume de Dieu parmi les hommes. Les trois premières demandes de notre Père nous font participer à la préoccupation d'amour de Dieu pour tous les hommes. Les trois dernières demandes prient Dieu d'intervenir au centre même de notre vie d'homme.
Le Notre Père est la prière du Fils s'adressant au Père, la prière de l'amour qui partage. Le Notre Père nous est donné encore aujourd'hui pour nous délivrer et nous débarrasser de toutes les prières fausses et insultantes pour Dieu dans lesquelles il nous arrive de nous complaire et de nous endormir.
Que faut-il en conclure ? Faut-il ne prier que le Notre Père ? Sûrement pas. Jésus, qui condamnait les prières hypocrites, longues, superstitieuses, et qui donnait le Notre Père comme type d'une prière filiale, d'une prière d'amour, nous adresse en effet au chapitre 18 de l'évangile de Luc, cette parabole que nous avons lue du juge inique, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Que voulait donc dire Jésus dans cette parabole du juge et de la veuve ? Dieu ne ressemble pas, bien sûr, à un juge injuste. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Dieu ne s'amuse pas non plus à nous torturer et à nous pousser à lui demander 100 fois la même chose pour ne nous l'accorder qu'à la 101e fois. Imagineriez-vous un père agissant ainsi avec son fils ? Or, Dieu est notre Père, et c'est Jésus lui-même qui nous l'a appris. Cette révélation est au centre de son évangile, de la bonne nouvelle.
Alors, pourquoi cette parabole ? Peut-être tout simplement parce que Jésus connaît bien notre paresse à prier. Il sait bien que nous ne savons pas prier comme il faut, comme dit Paul en Romains 8, au chapitre 8. Il sait que si nos prières peuvent parfois devenir vaines et fausses, elles peuvent aussi très facilement et tout simplement cesser d'exister.
Or, l'absence de prière dans la vie d'un chrétien, c'est le silence d'un fils qui n'adresse plus la parole à son père. Dieu ne doit pas être à la périphérie de nos vies, mais il faut qu'il demeure toujours le centre rayonnant de notre vie. Dieu nous invite à le prier, à lui parler avec foi et amour.
Comme la veuve de la parabole, nous sommes donc, nous aussi, appelés à la persévérance dans la prière. Peu importe la force du mal qui nous entoure, peu importe le mépris de la justice autour de nous. Nous persévérerons dans la prière pour nous-mêmes, pour les autres. Voici pour conclure l'exemple d'une prière humble et espérante pour nous encourager à prier. Il se trouve dans les notes intimes de Marie-Noël. Voici le dialogue extraordinaire entre l'homme et Dieu, où Dieu ne dit à l'homme qu'une seule chose, « Donne ». Donne ta faiblesse, donne ta misère, donne ta prière. Nous vous lisons ce passage des notes intimes de Marie-Noël.
Vous voilà, mon Dieu. Vous me cherchiez ? Que me voulez-vous ? Je n'ai rien à vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n'ai rien mis de côté pour vous. Rien, pas une bonne action, j'étais trop lasse. Rien, pas une bonne parole, j'étais trop triste. Rien que le dégoût de vivre, l'ennui, la stérilité.
Donne.
La hâte chaque jour de voir la journée finie sans servir à rien. Le désir de repos, loin du devoir et des œuvres, le détachement du bien à faire et même le dégoût de vous, ô mon Dieu.
Donne.
La torpeur de l'âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus forte que le remords.
Donne.
Le besoin d'être heureux, la tendresse qui brise, la douleur d'être moi sans secours.
Donne.
Des troubles, des épouvantes, des doutes.
Donne.
Seigneur, voilà que, comme un chiffonnier, vous allez ramassant des déchets, des immondices. Qu'en voulez-vous faire, Seigneur ?
Le royaume des cieux.
Toujours prier et ne jamais se décourager, nous dit Jésus. Saint-Esprit, remplis nos cœurs, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Viens toi-même prier avec nous, le Père, par Jésus notre frère. Toi qui connais nos besoins avant qu'ils ne soient nés en nous, tu es notre besoin, nous dit Khalil Gibran. Et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Amen.
Thank you.
vous invitons maintenant à vous associer à une prière d'André Dumas.
Notre Dieu, nous te demandons d'élargir l'espace de nos tentes et de nos vies. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup d'autres intérêts puissent y nicher leur nid. Nous souhaitons pouvoir cueillir, accueillir et recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos chemins. Chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, agir avec ceux qui transforment, voir avec ceux qui montrent, deviner avec ceux qui cachent, marcher avec ceux qui se lèvent, camper avec ceux qui s'arrêtent, aller avec ceux qui courent, souffler avec ceux qui récupèrent, parler avec ceux qui échangent, nous taire avec ceux qui font halte. Nous souhaitons, ô Dieu, avoir un cœur au large, un cœur en émoi et en ardeur, un cœur en arrêt et en douceur.
Mais voici que nos tentes, nos cœurs et nos vies ont tendance à se rétrécir, comme une robe qui a trop de fois été à la lessive et dont la couleur se fane. Voici que nous avons tendance et tentation de nous réduire, de délaisser ce qui nous cause difficulté et embarras, de nous calfeutrer dans un recoin étroit, de crainte de ne pas savoir nous y prendre avec ce qui est trop étranger à notre nature, trop dur pour nos capacités, trop incertain dans ses résultats. Voici que nous renonçons trop vite et que nos vies s'amenuisent comme une confiture desséchée.
Sérieusement, notre Dieu, nous te le demandons. Chaque jour, élargis-nous, pour que vieillir ne soit ni s'endurcir, ni pourrir, mais sans cesse mûrir, avec la pluie et le soleil, avec la fleur et le fruit, avec les racines et les branches. Plante-nous comme des arbres dans la terre de ta création, vers le ciel de ta rédemption. Plante-nous comme du blé qui pousse avec et malgré l'ivraie, les orties et les pierres du chemin.
Plante-nous comme un village au sommet d'une colline, si bien que ses lumières balisent la plaine, avec et malgré le vent, le brouillard et l'orage. Plante-nous comme un olivier qui scintille. Plante-nous comme un bambou dont la souplesse devienne du fer. Plante-nous comme un cèdre qui abrite et découpe l'espace.
Plante-nous comme un cyprès qui s'affine en oriflamme. Plante-nous même comme un platane qui bedonne au long des routes et leur donne ombrage. Plante-nous comme les arbres qui franchissent les saisons et qui s'élargissent sans cesse, car le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qu'un homme plante dans un jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Amen. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matin à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Nous serions très heureux de vous y accueillir. Au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt. Thank you.
Justus fortis, rectus patiens.